Jésus disait à ses disciples, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et certainement, quand il prononçait ces paroles, il nous voyait déjà dans sa parfaite connaissance des événements futurs. Il nous voyait là, nous qui serions des hommes et des femmes ayant cru au témoignage de ses disciples. Dans sa prière à Gethsémané, Jésus, levant les yeux au ciel, avait annoncé que plusieurs croiraient en lui par les paroles de ses disciples. Et nous sommes de ceux auxquels le témoignage apostolique est parvenu, et nous sommes de ceux qui ont répondu à son appel. Et maintenant, nous savons que Jésus est réellement au milieu de nous. Nous croyons à sa présence réelle. Et ce que nous demandons au Seigneur, c'est que nous puissions les uns et les autres saisir sa main qui vous est tendue ce matin, sa main dont parle Habacuc le prophète en disant, des rayons jaillissent de sa main, et là se cache sa force. Que les uns et les autres, nous puissions recevoir dans cette heure la force toute-puissante du Seigneur, et que désormais nous ne lâchions pas nous-mêmes la main de notre Seigneur. Pour ceux qui le veulent, il est bien dit, nul ne pourra vous ravir de ma main. Quelle bénédiction d'avoir notre main aujourd'hui dans la main du Seigneur, et cela pour toujours. Nous allons lire ensemble le psaume 103, partiellement, afin que vous puissiez les uns et les autres, dans ce silence qui est louange, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que dans ce silence qui est louange, vous puissiez exhorter votre propre âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Ce n'est pas un simple culte des lèvres que nous allons offrir au Seigneur, mais c'est le culte de tout notre être, esprit, âme et corps, consacré à notre Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, qui veut remplir l'homme tout entier de sa plénitude. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos faux. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, regardez cette distance. Autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses, comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Nous venons d'entendre ta parole. Et nous voulons la laisser pénétrer tous nos cœurs. Nous la recevons les uns les autres selon nos besoins. Ces besoins que tu connais et que tu peux parfaitement satisfaire si nous avons foi en tes promesses. Que cette heure placée sous ton regard soit une heure intensément bénie et que cette journée du 2 août marque dans nos vies une étape heureuse et inoubliable pour chacun de nous. Nos yeux sont sur toi et nous savons qu'en te regardant, nous sommes illuminés et que nous n'aurons point à rougir. Que tu nous transformes ce matin à ton image et à ta ressemblance et que désormais dans ce monde, nous soyons ces miroirs qui reflètent le visage du Sauveur. Amen. Après cette lecture de ce merveilleux psaume 103, qui nous affirme que Dieu nous a pardonné toutes nos fautes, qu'il guérit toutes nos maladies, pour laisser entrer toutes ces affirmations, nous allons chanter en pensant aux paroles que nous exprimons, le cantique 34, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? C'est bien ce que nous avons entendu dans la lecture de ta parole. Longtemps j'ai loin de ta face provoqué son saint courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Ce sont les pensées que l'ennemi de nos âmes, l'accusateur des frères, voudrait nous rappeler ce matin. Ô Jésus, à toi je cède. Nous avons entendu ton accueil, ton invitation, venez au Sauveur. Ô Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré, et ça pourrait être aujourd'hui. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé, pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi. Pourquoi ne serait-ce pas dans ce 2 août 1981 tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Voudriez-vous connaître ce matin cette divine étreinte au-dessous de vous? Sont les bras éternels. Puissions-nous répondre à son invitation. Nous allons chanter debout, miséricorde insondable. Tel que je suis, prends-moi. Écoutons avec l'oreille de notre cœur ce que Jésus nous dit. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Comment pourrions-nous résister à ton appel? Si longtemps tu as fait retentir ta voix à ce peuple d'Israël, l'appelant par Jérémie, ton prophète, à revenir à toi. Ce peuple qui s'endurcissait de plus en plus et qui allait au-devant du jugement, alors que toi tu disais que tes yeux pleuraient jour et nuit à cause de la détresse de ce peuple qui ne connaissait pas l'heure où il était visité. Et plus tard, Seigneur Jésus, devant Jérusalem, alors que tu t'étais incarné au Fils unique et que tu marchais sur cette terre, allant à cette ville qui tue les prophètes, qui lapidait ce que Dieu lui avait envoyé, tu t'arrêtais dans cette descente du mont des Oliviers et tu pleurais sur cette ville qui allait combler la mesure de ses pères en mettant à mort le Fils de Dieu. Et tu disais, oh, si toi au moins tu connaissais en ce jour qui t'est donné les choses qui appartiennent à ta paix, Seigneur, qu'aujourd'hui ces choses ne soient pas cachées à nos yeux et que nos cœurs sous ce ciel ouvert puissent s'ouvrir enfin pour recevoir ta plénitude. Amen. Mes amis, nous allons maintenant reprendre notre étude de l'Épître aux Romains, et comme je vous le disais, nous allons lire les versets 16 et 17, qui nous donne le thème de cet épître et aussi le thème de ce camp Mahanaïm 81. Nous avons vu que l'apôtre Paul avait le grand désir d'annoncer l'évangile aux chrétiens qui étaient à Rome. Et vous remarquerez que c'était déjà des hommes sauvés par la grâce du Seigneur. Et c'est justement à des sauvés que Paul désire annoncer l'évangile. Vous comprendrez de suite que l'évangile n'est pas ce petit salut que certains prédicateurs présentent aujourd'hui aux foules. L'évangile C'est tout le conseil de Dieu. Et nous avons toujours besoin d'entendre l'Évangile, d'être évangélisés. S'il y a un besoin urgent dans ce monde de l'Évangile, je dirais que ce sont d'abord les églises qui ont besoin de l'Évangile. Car si les églises étaient visitées par la puissance de l'Évangile, le monde y croirait à cette doctrine du Christ, parce qu'il verrait que cette doctrine est réellement une vie. Eh bien, ce camp Mahanaïm n'a que ce but de nous faire comprendre que la puissance de Dieu, c'est une vie qui peut nous être donnée pour que nous la vivions dans le quotidien, 24 heures sur 24 heures, dans toutes les situations. Nous qui portons le bon nom de Jésus, et nous sommes absolument convaincus que s'il y a si peu de conversions réelles aujourd'hui dans ce monde, alors qu'on se glorifie de réveils sensationnels, eh bien nous sommes convaincus que c'est parce que les chrétiens, ceux qui portent le nom de Jésus, ne vivent pas la réalité chrétienne. Le sel de la terre a perdu sa saveur. Que Dieu nous donne dans ce camp d'avoir du sel en nous-mêmes et d'être conséquent avec ce que nous croyons. Car, dit l'apôtre, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra de foi. Ô Dieu, nous venons d'entendre ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et bien-aimés, l'Évangile dont Paul n'avait pas honte. C'était une nouvelle qui avait réellement bouleversé sa vie. Et il n'avait pas honte de ce bouleversement. Et quel bouleversement! Lui, docteur parmi les pharisiens, élève du grand Gamaliel, qui doit reconnaître que ses disciples sectaires du Nazaréen étaient dans la vérité, alors que lui se croyait le défenseur de la religion la plus pure, de la seule vraie religion. Lui qui se croyait parfaitement juste, observateur strict de la loi, il avait dû faire faillite et mettre sa confiance dans ce Jésus crucifié que prêchaient ces quelques Galiléens sans culture, qui n'avaient pas fréquenté les hautes écoles de Jérusalem. Et quel scandale pour les sages, pour ceux qui aiment à raisonner, pour ces esprits forts. Comment mettre notre confiance à un homme qui a été crucifié, à un homme que l'on a vu pendu au gibet, à un homme qui semble avoir eu une crise de désespoir au moment où il mourait, à un homme qui n'est pas mort comme les païens un drame, un homme qui a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien oui, quand l'Esprit de Dieu opère, il peut faire que vous acceptiez ce scandale, et il peut faire aussi que vous acceptiez cette folie, car ce n'est rien d'autre qu'une folie, le message que Dieu fait annoncer au monde. Un Dieu qui vit dans les cieux des cieux et qui consent à venir habiter parmi les hommes, à naître dans l'obscurité d'une étable, dans la bourgade de Bethléem, à prendre le métier de charpentier dans la ville méprisée de Nazareth. Quelle folie! Et pourtant, c'est là que vous voyez l'amour de Dieu, qui aime tellement les humbles et les petits, qui aime tellement même ces pécheurs invétérés, qui vivent dans la souillure, et qui respirent bien souvent l'atmosphère d'une écurie. Eh bien, c'est dans une écurie et qu'il mettra, c'est dans une étable, près des animaux, que le Seigneur verra le jour pour que les plus humbles de la terre puissent s'approcher de lui. Et vous voyez que la première église, le premier temple où on a adoré Jésus, c'était une étable, un lieu tout à fait providentiel. Et c'est là que le Seigneur est venu. Paul de Tarse a cru. Il n'a pas résisté à la vision céleste. Celui qui avait été crucifié en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, il le savait réellement ressuscité. Le témoignage de ses disciples était donc vrai. Alors, de cette nouvelle, il n'avait pas honte de s'en faire le porteur jusqu'à Rome pour affermir ses croyants qui allaient passer par d'horribles persécutions. Il voulait qu'ils soient forts dans la souffrance qu'ils allaient traverser, car Paul était prophète aussi. Et il savait bien que la parole de Jésus se réaliserait. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais ayez bon courage, car j'ai vaincu le monde. Alors Paul voulait apporter cet évangile à Rome. Et il disait, c'est une puissance, mais pas seulement une puissance, c'est la puissance de Dieu. Mais de quel Dieu? Et bien du Dieu de l'Ancien Testament, du Dieu qui a enlevé Enoch de ce monde en le faisant entrer dans la gloire sans qu'il ait à passer par la mort. C'était la puissance de Dieu qui a préservé du déluge un Noé et les siens qui ont pu vivre avec tous ces animaux dans ce bateau qu'ils avaient construit sur l'ordre de Dieu. C'était le Dieu d'Abraham, le père de tous les croyants, le Dieu de cet homme qui a su obéir et manifester ce que c'est que la foi. La foi croit Dieu, la foi prend Dieu au mot. Et quand Dieu lui avait dit « Sors de ton pays et de ta parenté pour aller vers le lieu que je te montrerai », Abraham obéit et quitte Ur de Chaldée pour s'en aller étape par étape vers ce pays de Canaan que Dieu lui indiquera en chemin. C'est le Dieu d'Isaac, l'homme qui vivait comme par une sorte de résurrection parce qu'Isaac aurait dû être mort, sacrifié sur l'autel de Morija. Et Isaac, dans toute sa vie, avait conservé ce souvenir effroyable de ce moment où lié sur l'autel, son père levait le couteau pour l'égorger. Il est parlé dans ce que dit Jacob au sujet de son père, de la frayeur d'Isaac, et que Jacob jurait par la frayeur de son père Isaac. Quelle frayeur! La frayeur qu'Isaac avait eue sur le mont Morija et qui l'habitait encore. Si Isaac vivait, c'est comme par une sorte de résurrection, comme l'avait prévu son père Abraham. Oui, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais aussi le Dieu de Jacob, de cet homme retors, de cet homme qui avait de grandes faiblesses et qui pourtant trouva en Dieu son berger, celui qui le ramenait, celui qui faisait son éducation au travers de bien des souffrances. Dieu de Jacob, de ce Jacob mourant qui dit « J'ai attendu ton salut » et on peut traduire littéralement « J'ai attendu ton Jésus » car Jacob, tout retors qu'il était, avait mis malgré tout sa confiance dans le Seigneur. C'était le Dieu de Moïse, de cet homme qui avait été appelé par Dieu à l'âge de 80 ans pour conduire le peuple d'Israël, et dont l'Épître aux Hébreux dit « Il marchait comme voyant l'invisible ». Oh, si Dieu voulait vous donner cette vision de l'invisible, marcher pendant 40 ans au milieu d'un désert, comme voyant non pas le peuple et ses misères, mais voyant l'invisible qui lui redonnait confiance, qui lui redonnait courage. Car Moïse n'avait-il pas dit, si tu ne viens pas avec nous, eh bien je n'irai pas. Et le Seigneur lui avait dit, ma face ira devant toi. Et Moïse marchait, contemplant la face invisible du Seigneur. C'était le Dieu de David, le roi selon le cœur du Seigneur. C'était le Dieu des prophètes, de ces hommes qui se tenaient devant l'Éternel comme Élie pour recevoir la parole qu'ils devaient apporter aux âmes et qui pouvaient dire « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant ». Les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas de ces hommes qui regardaient ce qui se passait dans le monde, qui observaient les désirs des foules pour essayer d'aller au-devant de ses besoins pour les satisfaire. Au contraire, ils se tenaient devant Dieu et la parole qu'ils disaient était une parole qui transperçait les consciences, qui atteignait les cœurs et les reins et qui transformait radicalement des vies, mais qui rendait ses prophètes haïssables aux yeux du peuple. C'est pourquoi plusieurs connurent ainsi le martyr. Eh bien, la puissance de Dieu, c'est la puissance de tous ces hommes de foi de l'Ancien Testament, mais la puissance de Dieu, c'est la puissance du Dieu de Jésus, qui nous a fait connaître que cette puissance était une puissance d'amour, la puissance d'un père au cœur de mère, comme quelqu'un que sa mère console. Ainsi je vous consolerai et vous serez consolés. Seul Jésus nous a révélé le Père, et Paul de Tarse a eu cette révélation. Le Père lui a révélé son Fils, et le Fils lui a révélé le Père. Donc, l'Évangile est une puissance, de Dieu. Mais l'Évangile est aussi un message. Un message universel. Il s'adresse aussi bien aux Juifs qui ont une religion qu'aux Grecs qui se glorifient de leur science et aussi de leur athéisme. C'est un message qui atteint tous les hommes, sans distinction. De sorte que quand Paul ira à Rome, il n'est pas en souci au sujet de ses auditeurs. Que ce soit des saints, il leur parlera avec la simplicité du Christ. Que ce soit des êtres intelligents, il saura les atteindre et leur prouver que la véritable intelligence, c'est se retirer du mal et que la véritable sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il a donc un message pour les simples comme pour les intelligents. Mais l'Évangile, et je voudrais encore le souligner, c'est une véritable révélation. Et quelle révélation ? La révélation de la justice de Dieu, la seule par laquelle l'homme puisse subsister devant son juge. L'Évangile dont Paul n'a pas honte, c'est une révélation de la justice de Dieu. Qu'entendez-vous journellement sur la terre, si vos oreilles sont encore ouvertes, à ce que disent les hommes au sujet de Dieu? Comment, si Dieu était juste? Eh bien, si vous avez encore cette question dans votre cœur, c'est que vous ne connaissez pas, comme vous devriez le connaître, l'Évangile. L'Évangile vous donne la révélation de la justice de Dieu. Cette justice qui, en Dieu, est cette perfection glorieuse qui lui permet de récompenser le bien et de juger le mal, mais qui est plus que cela, qui est une sainteté parfaite dans la lumière et dans la vérité. Oh, si nous connaissions cette vérité, si elle habitait au fond de notre cœur, nous ne nous poserions plus de questions au sujet de la justice de Dieu, quelles que soient les épreuves que nous aurons à traverser, quelles que soient les circonstances où nous verrons des êtres chers passer. Nous ne douterons ni de la justice de Dieu, ni de sa toute-puissance, parce que l'Évangile nous a révélé cette justice. Cette justice qui m'émeut, cette justice qui me plonge dans l'adoration. Dieu n'a pas voulu imputer aux hommes leurs fautes, leurs offenses. Mais en Père éternel, en Créateur responsable, il s'est incarné et il est venu opérer le salut des pécheurs, le salut des coupables, de sorte que personne ne sera condamné parce qu'il est né pécheur, parce qu'il est né d'Adam, mais l'homme ne sera condamné que parce qu'il aura refusé la grâce paternelle, la grâce que Dieu offre à toutes ses créatures coupables. Il ne vous a pas demandé de faire votre salut. Il vous dit qu'il vous a apporté le salut et que ce salut, c'est Jésus, Dieu, était en Christ. Voilà la nouvelle que nous apporte l'Évangile. Réconciliant le monde avec lui-même, Dieu prenant la responsabilité du péché de l'homme et expiant nos fautes dans le jugement du calvaire. Puissiez-vous être de ceux qui ferment la bouche et qui, dans le silence, adorent le Dieu de justice, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nos offenses. Car l'Évangile, vous l'avez compris, c'est une personne, ce n'est pas une doctrine seulement, ce n'est pas un ensemble de vérités, disions-nous. L'Évangile, c'est une personne, c'est quelqu'un, et c'est quelqu'un que l'on reçoit par la foi. C'est une parole que l'on croit. La foi étant la croyance qui repose sur le témoignage. Dieu a parlé. Dieu nous a donné son Fils. Dieu a rendu témoignage à son Fils. Et il nous a dit que la vie était dans son Fils. Si nous avons reçu le Fils, nous avons la vie. Si nous n'avons pas le Fils, nous n'avons pas la vie. Et ces choses nous ont été écrites pour que nous sachions que nous avons la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, cet évangile que nous allons étudier dans l'Épître aux Romains, cet évangile dont Paul n'a pas honte, c'est quoi pour nous en réalité? Nous l'avons dit, c'est une puissance de Dieu. Mais ce n'est pas seulement une puissance, c'est un message universel qui doit nous faire aller apporter aux plus humbles de la terre comme aux plus intelligents une parole qui est une parole de Dieu. C'est une véritable révélation dont le monde a besoin. Et si les chrétiens cessaient de se plaindre, cessaient de murmurer, et étaient des témoignages de la justice de Dieu, et glorifiaient Dieu pour sa justice, comme il y en aurait des conversions. Et si le monde voyait que notre évangile, c'est quelqu'un qui nous habite, que ce n'est plus nous qui vivons, mais que le Christ vit en nous, quel changement! Non un système, non une idéologie, mais quelqu'un que nous aimons, qui est au centre de nos affections et qui influence tout notre comportement. Autrement dit, l'évangile, c'est une vie. L'évangile, c'est une vie. Une vie que l'on accepte par la foi et qui est celle d'un autre en nous, la vie de Jésus, parce que nous avons renoncé à la nôtre. Et maintenant, ayant reçu la vie de Jésus, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous et qui réalise la volonté divine dans notre chair mortelle. Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Vie de foi. Vie de foi sans cesse renouvelée. La justice de Dieu nous y est révélée, selon qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Non pas seulement une justice que nous recevons par la foi un jour quand nous croyons, mais une justice qui nous fait vivre ensuite chaque jour de foi. Nous allons introduire le service de la Sainte Cène de l'Eucharistie en chantant ensemble debout le cantique 15. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, mit le comble à son amour pour eux, ou les aima jusqu'au bout. Et l'apôtre Paul, qui lui n'avait pas participé à ce repas eucharistique à Jérusalem, nous dit pourtant, au chapitre 11 de sa première épître aux Corinthiens, qu'il a reçu du Seigneur ce qu'il a transmis aux Corinthiens. Et dans ce chapitre, il reprend ses Corinthiens en leur disant, « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire, si ce n'est que cela que vous venez faire dans un culte, dans une assemblée ou une église, manger et boire, rester à la maison pour manger et boire, si ce n'est que cela pour vous, car ce n'est pas cela communier. Il n'est pas question simplement de manger et de boire. Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Et c'est là qu'il commence à montrer ce qu'il a reçu du Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Ce pain qui était sur la table et qui accompagnait le repas pascal. Ce n'était pas un pain particulier, c'était le pain, évidemment sans levain, mais du repas pascal. Et que dit-il? Ayant pris le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, une de ces coupes qui était sur la table et qu'il va distribuer aux siens. Et que dit-il? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, en ce 2 août, nous qui célébrons ce repas du Seigneur dans la plus grande simplicité, nous sommes de ceux qui annoncent la mort du Seigneur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous reconnaissons que pour nous sauver, il a fallu que le Seigneur Jésus meure sur la croix. Et que nous reconnaissons aussi que cette mort du Seigneur est devenue notre propre mort à notre vie passée. Chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, nous confessons que nous aussi, nous sommes morts. Nous ne renouvelons pas le sacrifice du Christ. Il ne peut pas être renouvelé. Il est mort une fois pour toutes pour le péché. Mais nous sommes devant cette croix. Nous nous souvenons, nous nous rappelons qu'il a fallu cette mort. Mais non seulement que cette mort était nécessaire pour notre salut, mais était aussi nécessaire pour que nous en ayons fini nous-mêmes avec notre moi, avec notre vie charnelle, pour que nous connaissions la vie de Jésus ressuscité. Et c'est tout cela que nous confessons à la table du Seigneur. Quand nous prenons le pain, nous reconnaissons que Jésus a dû mourir, que sa chair a été séparée de son sang, et que nous croyons cela, nous mangeons vraiment cette vérité. Il a fallu pour mon salut que Jésus meure. C'est cela, le sang et la chair séparés. Cela signifie la mort. Quand la chair et le sang sont séparés, c'est la mort. Et Jésus avait annoncé cette nécessité, que sa vie en elle-même, sa vie de modèle, sa vie d'exemple, ne sauverait personne. Que d'avoir un Jésus qui fait des miracles, un Jésus qui nous apporte du merveilleux, ça ne va pas changer nos vies, ça ne va pas changer nos cœurs. Et quand Jésus voit ces foules qui viennent à lui parce qu'ils ont vu un miracle, parce qu'ils voudraient voir encore d'autres miracles, Jésus leur dit, mais ce n'est pas cela. Cette vie que vous avez eue, il faut qu'elle soit en vous. Et pour qu'elle soit en vous, eh bien, il faudra que je meure. Il faudra que cette vie, je vous la donne. Il faudra que vous vous l'appropriez. Et les disciples ont dit, cette parole est dure, qui peut l'ouïr? Comment peut-on manger la chair du Seigneur? Comment peut-on boire son sang? Mais, vous l'avez compris, manger, c'est venir à lui. Et boire, c'est croire réellement en lui. Alors, ce matin, en participant à ce repas, nous allons confesser que réellement nous avons accepté la vie de Jésus. Ou peut-être que nous l'acceptons parce que c'est lui qui nous invite à ce repas. Et que peut-être pour la première fois, s'entend bien que ce n'est pas une secte qui nous invite, une église particulière, mais la personne même du Seigneur nous dira « Oui Seigneur, je m'approche de toi, tel que je suis. » Il n'y a pas de préalable pour cela. Le Seigneur ne refuse pas un cœur brisé et humilié. Tout ce que vous aurez à faire ensuite, lui-même vous le montrera. Il vous accueille tel que vous êtes. Mais il veut que vous sachiez ce que vous faites, que vous avez réellement communion avec lui, avec sa vie donnée, que vous reconnaissez que vous étiez pécheur perdu et que seul le sang de Christ a pu vous laver de vos péchés. Et que seule cette mort de Christ, vécue tous les jours et qui est signifiée par le baptême, notre ensevelissement avec le Christ dans sa mort, et notre résurrection en lui vient vous signifier que vous avez passé par là, que vous croyez que c'est vrai. Non pas parce que vous sentez que vous êtes mort, mais parce que dans la foi vous saisissez que c'est la seule délivrance. Se tenir pour mort, pour que la vie de Jésus se manifeste en notre chair mortelle. Et puis vous allez discerner le corps de Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous ne formons maintenant plus qu'un seul corps. Et nous allons discerner que sur la terre tout entière, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus sont les membres de ce corps. Nous ne communions pas seuls, mais nous communions avec l'Église universelle, avec tous les croyants, quelle que soit leur confession, leur dénomination. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Nous en avons fini avec les définitions de la Sainte Cène de l'Eucharistie. Transubstantiation, disent les catholiques romains. Transubstantiation, disent les luthériens. Présente réelle dira le réformateur Calvin, mémorial seulement, proclamera Ulrich Zwingli. Tout cela, nous laissons ces définitions de côté et nous nous plaçons devant le Seigneur, qui n'est pas un symbole, qui n'est pas une définition, qui est quelqu'un de réel au milieu de nous et entre vous et le Seigneur. Se passe ce moment divin de sa présence réelle quand le oui total est dit au Seigneur sans réserve. Toi qui t'es donné, je me donne. Je te livre mon corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, pour que désormais, avec ce corps, tu continues ton incarnation dans ce monde, regardant par mes yeux, écoutant par mes oreilles, servant par mes mains, se déplaçant par mes pieds, aimant par mon cœur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons, car en ce jour, nous proclamons ta mort, qui nous a apporté la vie, et nous te disons notre espérance en ton retour. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même, et c'est pourquoi plusieurs sont malades parmi vous, et qu'un grand nombre sont morts. Ce pain que nous rompons est notre communion au corps du Christ qui a été donné pour nous. Faites ceci en mémoire de moi. Pour simplifier les choses, nous allons passer le pain parmi vous et ceux qui le désirent, qui ont affaire seulement avec le Seigneur, comprenons le pain. Recevant ce pain de la main même du Seigneur qui vous l'a tendu ce matin en vous disant des rayons de force jaillissent de ma main et que cette force vous soit donné. Amen. Cette coupe de bénédiction est notre communion au sang du Christ qui a été versé pour nous. Quand nous pensons que nous sommes unis, il ne peut pas rester d'amertume dans nos cœurs à l'égard d'aucun de nos frères. Vivons cette unité. Amen. dans l'adoration et dans les certitudes de la foi, nous allons chanter le cantique 54. Mon Sauveur m'aime. Quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre vivre en homme de douleur. Voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime. En retour, mon Sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon sûr abri. Mon Sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il m'offre à la fois. Jésus, Jésus, qui peut fonder ton amour, Jésus, je t'aime. En retour, que ce soit là notre confession de foi au terme de ce culte. Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre vivre en homme de douleur. Voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut fonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime. Mon Sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci. Mon amour immense et mon sûr appui. Jésus, Jésus, qui peut fonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut fonder ton amour. Jésus, Jésus. Nous voulons nous lever pour la dernière prière. Ô Père, tous enveloppés par ton merveilleux amour, nous nous sommes levés pour te dire que nous désirons nous tenir par ta force toute puissante, debout pour toi, dans ce monde et debout jusqu'au bout, comme toi tu te tiens, Seigneur Jésus, debout pour nous, devant la face du Père en ce moment-là. Et nous savons que le Père ne nous voit plus qu'au travers de tes perfections infinies, Seigneur Jésus. Nous n'existons plus à ses yeux comme pécheurs. Nous avons été rendus agréables dans le bien-aimé. Et nous te remercions de ce que maintenant, nous ne sommes plus couverts des haillons de notre propre justice, mais nous sommes couverts de la justice de Dieu, manifesté en Christ, et que ce soit comme ayant revêtu Christ, que nous soyons connus dans ce camp, et que nous soyons connus dans le monde où nous devrons retourner. Que ta bénédiction repose sur cette continuation du camp, et que tu nous donnes chaque jour d'entrer plus avant dans la connaissance de celui qui seul peut nous transformer, dans cette connaissance qui surpasse toute intelligence, que ta grâce nous soit donnée et que tu bénisses aussi tous ceux qui n'ont pu se joindre à nous, qui pensent à nous et nous pensons d'une façon particulière à Francine qui était autrefois avec nous, qui est sur un lit de maladie, tu sais ce qui en est pour elle. Et de ce lieu, nous invoquons ta bénédiction sur elle. Accomplis pour elle ce qui est le meilleur dans ta pensée. Que tu la guérisses complètement, ou que tu la reprennes auprès de toi. Car être auprès de toi, nous le savons, c'est de beaucoup meilleur qu'être ici-bas. Et ce n'est pas une catastrophe de nous en aller vers toi, mais que ta grâce nous soit donné, soit que nous vivions, soit que nous mourions, que nous puissions nous souvenir que nous sommes au Seigneur. Amen. Et recevons du Seigneur sa bénédiction. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen.